Comme chaque mercredi, voici Wagon Livre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous proposons un entretien avec Nicole Balveaio, actuellement en résidence d'écriture à Vézelay, à la Maison Jules Roy, jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Née à Auxerre en 1942, Nicole Balveaio a grandi auprès de parents commerçants installés rue du Temple, à Auxerre. Elle rencontre son mari, Daniel, lors d'un séjour linguistique en Grande-Bretagne. Puis, après des études à la Sorbonne, elle devient professeure d'anglais. Elle enseignera 3 ans en Tunisie, puis elle choisit de quitter la France en 1969 pour le Canada, où elle s'installera avec son mari et où, à ce jour, elle réside toujours, plus précisément en Outaouais, région du Québec. Nicole a 2 filles et elle est aussi la grand-mère de 5 petits-enfants. Nicole Balveaio est l'auteur de 4 livres, bientôt 5. 4 livres dont voici les titres. Dérive, L'enfant du Mékong, Parce que c'était toi, parce que c'était moi. Et, après ces 3 romans, un recueil de nouvelles regroupé sous le titre de Fenêtre sur vie. Ce 44e numéro de Wagon Livre nous offre l'opportunité de découvrir les nombreux thèmes des ouvrages mentionnés, à commencer par le recueil de nouvelles, l'ouvrage le plus récent, intitulé « Fenêtre sur vie ». Une des nouvelles a pour titre, très laconiquement, « Écrire ». Et vous écrivez justement dans cette nouvelle, à propos du personnage qui s'y trouve, « Elle écrit depuis toujours, elle écrit toujours ou presque. Écrire est pour elle un acte viscéral. Elle écrit de tout. » Des histoires, des chroniques, des essais. Elle écrit dans le doute, l'inquiétude. Finalement, c'est à travers ce personnage qui domine la nouvelle écrire. Vous parlez de vous, Nicole Balveaio.
Bien sûr. Même si c'est écrit à la 3e personne, ce qui est un petit peu déroutant parfois, parce qu'il m'arrive d'écrire au jeu, alors que ce n'est pas moi. Mais les gens pensent, par exemple, dans L'enfant du Mékong, que j'ai été danseuse dans une première vie. Non, je n'ai pas été danseuse. Par contre, là, c'est moi. Même si c'est à la 3e personne, c'est moi. Je pense à regarder ça, avec le recul de 2 ans, que c'est... quand il s'agit de moi, je préfère prendre un certain recul, et l'usage de la 3e personne permet de prendre ce recul. Donc, on n'est pas tout à fait... dans l'émotion. On arrive à prendre une certaine distance par rapport à l'émotion. Alors j'ai retrouvé ça dans plusieurs... Mais je me garde bien de le dire, je garde mes secrets.
Mais c'est aussi, Nicole Balveaio, c'est la souffrance, la maladie de votre mère qui vous a amené à l'écriture ?
J'avais déjà écrit pour un magazine pour adolescents pendant longtemps. Et c'est dans ce magazine, c'était des chroniques qui informaient les jeunes. Mais à un moment donné, j'ai dit au directeur de la revue que je voulais écrire des nouvelles. Et il m'a poussée à écrire des nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Dans cette nouvelle « Écrire », vous parlez justement de ce personnage qui veut se livrer à l'écriture avec toutes les craintes et les angoisses aussi que cela peut susciter. Jouant sur la scène de la vie, donc les rôles de la fille, de la sœur, de la mère, de l'épouse, de l'amie, de l'amante, décortiquant les souvenirs et les oublis de l'enfance, les deuils et les renoncements de la femme, les souffrances et les blessures de l'âme. Alors, est-ce que Nicole Balveaio est un auteur torturé, trituré par les souffrances de l'existence ? Les blessures,
oui, bien
les
sûr.
Cicatrices mal
refermées. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est bien connu que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais ce ne sont pas seulement mes histoires, sauf que j'ai une certaine empathie pour les gens qui ont des histoires malheureuses. Sinon, peut-être que je n'écrirais pas. Mais c'est sûr qu'au départ, il y a une souffrance, certainement. Il faudrait que je cherche exactement, mais bon... je peux pas dire, mais pour revenir à l'écriture, l'écriture c'est un plaisir. En fait, j'ai deux visages. Moi, je suis une femme heureuse, je suis une femme optimiste, je suis une femme qui est une battante.
Énergique, quand on
énergique,
vous rencontre, Nicole.
Oui, hein. Oui, puis j'accepte la vie avec optimisme. Je suis pas du tout... vraiment, je suis optimiste. Mais d'un autre côté, je n'irai jamais jusqu'à dire que la vie est une vallée de larmes, ça ne viendrait pas à l'idée. Mais je sais que les roses ont des épines. Donc il faut prendre la vie rose avec ses épines, voilà, c'est ça. Et évidemment, comme chacun sait, les romans ne racontent pas des histoires heureuses en général. Ils racontent toujours, il faut qu'il y ait un drame il faut pas qu'il y ait un drame, il faut qu'il y ait quelque chose de quelque chose qui comment je dirais,
qui
va pas, qui va pas. Il y a un petit écueil quelque part, un obstacle, et puis bon, voilà, ça remet la vie en question. Puis, bon, il ne faut pas oublier que quand j'ai qu'à écrire, il s'agit d'une femme. Bon, je pense qu'un homme n'aurait peut-être pas écrit ce que je dis, c'est-à-dire qu'il n'a pas à se soucier d'être père, d'être... Je ne sais pas, je ne suis pas dans la peau d'un homme, mais je m'imagine que Jules Roy, c'est qui je me trouve, a pu mener sa vie de journaliste, sa vie d'écrivain, comme il l'entendait, sans se soucier... d'avoir à faire la cuisine, à faire le ménage, à élever les enfants, savoir s'ils étaient malades, se lever la nuit pour les soigner. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors je crois que la carrière d'une femme, d'ailleurs les femmes n'écrivent pas depuis si longtemps, hein. On me cite toujours la princesse de Clèves, mais ça date un petit peu, ça. Pas la princesse de Clèves, mais Madame de Lafayette, oui. Ça date un petit peu. Alors combien de femmes il y a eu? La première, c'est peut-être George Sand. Elle n'a pas été très bien vue, mais la bonne dame du Berry.
Mais vos textes, Nicole Balvéayo, sont des textes que vous consacrez à l'identité de la femme.
Oui.
Êtes-vous féministe?
Oh, oui, bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Ben, parce que j'ai toutes sortes de réactions quand je dis ça, et je vais choquer le monde probablement, mais je dis qu'il faudrait vraiment... stupide pour ne pas être féministe. Parce que si on n'est pas féministe et qu'on ne réclame pas sa place et ses droits, on est dans une triste situation, selon moi. Mais c'est pas seulement sur le plan professionnel, parce que je reconnais que la femme est peut-être mieux établie sur le plan professionnel. Elle a sa place ici en France par rapport au Canada. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais sur le plan personnel, j'ai l'impression que les femmes ont peut-être plus de difficultés, pas toutes, bien sûr, on le voit, il y a des femmes en politique, mais je voudrais savoir quel est le pourcentage, hein, bon, et puis avoir cette liberté que moi j'ai par rapport à mon mari, par exemple, je vais sortir le soir, ça ne me dérange pas, je ne vais pas lui demander la permission, hein. Bon, voilà, toutes sortes de petites choses comme ça, et je me demande jusqu'à quel point nous arrivons à prendre notre place. Et puis même, je parle pour moi encore. Je ne me sens pas libre de faire tout ce que je veux du fait que... Bon, par exemple, je ne sors pas le soir toute seule parce que j'aurais peur d'avoir des ennuis. Alors, c'est dire qu'on n'est pas tout à fait à l'égal des hommes sur certains plans. Mais bon, pour épiloguer longtemps là-dessus.
Nous marquons une première pause avec un titre sélectionné par notre invitée franco-québécoise, Nicole Balvéayo, en résidence d'écriture... à la Maison Jules Roy, jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Eh bien, elle a choisi une Canadienne. Elle aura 60 ans en 2012. Elle est née à Montréal et elle est la voix mythique de Starmania. Peut-être l'aurez-vous reconnue. Il s'agit de Fabienne Thibault qui va nous accompagner en chanson avec « Si j'étais un homme ».
Je t'emmène partirai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde. Où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Chacun pour soi, ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure de soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas.
Radion. Radion. Au cœur de la Bourgogne, Radion.
Comme il est beaucoup question de l'identité de la femme dans notre wagon-livre ce soir, je voudrais mentionner une exposition qui sera très prochainement consacrée à l'écrivain Colette, exposition qui va ouvrir ses portes le 6 novembre prochain au cellier de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Cette exposition a pour titre « Colette, je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi ». Cette exposition sera visible jusqu'au 8 janvier 2012 et on y découvrira des correspondances, des manuscrits, des photographies, des éditions originales, des romans, ainsi que des documents inédits tels que les manuscrits de Chéri et de la fin de Chéri. Retour dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, aux côtés de notre invitée ce soir, Nicole Balveaio, auteure franco-québécoise, actuellement en résidence d'écriture à Vézelay, à la Maison Jurois, jusqu'à la fin de ce mois de novembre.
Les femmes ne sont certes pas à égalité avec les hommes, mais elles ont une force supplémentaire, c'est qu'elles peuvent mettre au monde des enfants. Et la maternité est en tout cas un pouvoir dont les femmes savent user, à la fois peut-être aussi pour séduire. Et il est beaucoup question de la maternité.
Ah ben c'est pas quelque chose que je passais sous silence. Je crois que je suis née avec le désir de devenir mère.
Vous êtes née un 13 octobre.
En plus, je suis née un 13 octobre, oui.
Il y a une nouvelle où il en est largement question. Alors, est-ce que finalement, Nicole Belverio, être née un 13, est-ce que ça vous a plutôt aidé dans la vie?
Ni l'un ni l'autre, je ne suis pas superstitieuse, mais par contre, je ne passerai pas sous une échelle, parce que j'ai failli recevoir une brique comme ça, en promenant sur le boulevard Saint-Michel. Je suis passée sous une échelle, et tout d'un coup, pouf, il est tombé une brique. Alors là, j'ai compris, je ne passe plus sous une échelle. Mais le 13 ne m'a pas porté malheur, ça, pas du tout. Pas du tout.
Est-ce que, vous qui êtes mère, est-ce que vous établissez un lien étroit entre mettre au monde des enfants et accoucher d'un texte, accoucher de récits, accoucher de nouvelles?
J'y fais souvent allusion parce que je crois que j'écris dans mon texte actuel que ma mère m'a fait accoucher d'un écrivain ou d'une écrivaine, si je veux rester fidèle à moi-même. Alors, c'est très curieux, en effet. De toute façon, oui, il y a une création dans les deux. Mais je ne renoncerai, maintenant je suis pas au terme de ma vie, mais enfin bien avancée en âge. D'ailleurs, je me dis qu'une jeune femme n'aurait pas pu écrire Fenêtre sur vie, c'est évident. Parce que, bon, j'écris de façon viscérale, comme je l'ai dit quelque part, mais justement, il y a cet éventail de femmes, hein, de la naissance jusqu'à la mort. Et je me dis, il faut avoir le regard que j'ai, puisque je suis née, tout le monde sait ça, je suis née en 42, donc j'en ai déjà vu un peu dans cette vie. Alors ça fait que je suis capable de parler de la jeune femme, de m'exprimer pour une jeune femme, comme pour une vieille femme. Et c'est pour ça que j'ai des femmes qui ont 80 ans, alors que je n'ai même pas cet âge-là, d'ailleurs.
Alors, il y a une nouvelle qui a un titre anglais, I'm 16 going on 17, c'est-à-dire j'ai 16 ans, bientôt 17. Oui.
Alors, c'est parce que ça fait allusion à la mélodie du bonheur. Alors là, vous allez avoir quelque chose de très intime. C'est le film que mes filles et nous regardons tous les ans à Noël, parce qu'il est diffusé tous les ans à Noël. Et c'est une des chansons de cette jeune fille qui est, j'ai entendu en anglais évidemment, et alors elle chante I'm going on 70, donc quelque chose comme ça. Alors c'est rigolo, puis elle est toute pure, et la désillusion va arriver tout de suite, parce que ça se passe au moment de l'Anschluss. Mais c'est bien, parce que c'est encore la pureté, l'innocence, mais on sait que ça va bientôt se terminer.
Et dans cette nouvelle, vous aimez évoquer sans doute avec nostalgie, Nicole, les premiers baisers de l'adolescence.
Ah oui, c'est mignon ça. Peut-être que justement, je me dis, mon Dieu, maintenant les jeunes gens se précipitent un petit peu trop, à mon avis, dans des étreintes plus...
Trop charnelles, trop rapidement charnelles.
On va mettre le mot charnel. Elle me dit, mais il y a quelque chose de bien dans ce petit flirt-là, c'est tout mignon, quoi. Bon.
Et puis, vous montrez qu'on peut aimer aussi, à plus de 80 ans,
ah, oui,
dans la nouvelle intitulée « Un printemps en automne ».
Oui.
Il est question de Mamie Marie, elle est veuve. Et un jour, le téléphone sonne, et au bout du fil, il y a un homme.
Une ancienne flamme.
Exact, un ancien amoureux qui, lui, est marié.
Encore marié, le coquin. Je l'appelle mon vieux Grigou.
Et le vieux Grigou, il rencontre
oui,
Mamie Marie.
Pour rencontrer Mamie Marie. Alors, la rencontre sur le plan charnel n'est pas extraordinaire, mais ça. C'est bien agréable. C'est comme la dernière goutte d'un bon café. C'est agréable. Et c'est bien, parce que entendre ça d'une femme de 80 ans qui vous dit « Je ne suis pas encore morte, il y a encore quelque chose là qui s'allume, qui est capable de je suis capable de désir, ça veut dire qu'il y a encore de la vie. » Je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, mon Dieu, toutes ces personnes âgées qui n'ont plus personne, ni pour les caresser, ni pour les toucher, parce que on les abandonne un peu dans nos maisons de retraite, je suis bien placée pour le savoir, et je me dis, il leur manque quelque chose. Hein.
Et pour vous, Nicole Belverio, susciter le désir tout au long de la vie,
c'est beau.
Oui, c'est réconfortant.
Ah oui, Oui, c'est beau de voir encore des personnes très très âgées qui s'embrassent ou qui se tiennent par la main dans la rue. Je trouve ça extraordinaire, moi.
Il y a une certaine audace dans vos nouvelles, Nicole.
Trouvez-vous ?
Oui, dans la mesure où vous abordez des thèmes avec, non pas crudité, mais avec, avec franchise, avec authenticité. Par exemple, vous parlez de menstruation, vous parlez de la ménopause.
Oui.
Ce sont des thèmes que les femmes auraient plutôt tendance à cacher, dans la mesure où, bon, les menstruations, c'est quelque chose dont on parle peut-être entre femmes, mais qu'on ne montre pas,
oui,
et qu'on ne couche pas sur le papier.
Alors, couche pas sur le papier, non, peut-être pas, mais vous savez, les premières menstruations d'une jeune fille, par exemple, c'est un moment à célébrer. C'est extraordinaire, ça aussi. Alors, ma petite fille à qui j'ai fait part de compliment, m'a dit, oh ben non, rajoute pas mamie quand même, c'est comme s'il y avait, il y a rien là, comme on dit au Québec. Ben oui, ma petite chérie, c'est toute ta vie de femme qui commence là. Alors je trouve ça extraordinaire. Bon, la ménopause, c'est moins rigolo. Et quand une femme commence à se dire, oh j'ai chaud, vous savez, je suis sur la cinquantaine, j'en dis, chut. Bon, puis ça nous fait rire. Ma mère m'a fait, et je n'ai peut-être pas de cette appréhension de la ménopause, quoique je la repousse le plus longtemps possible, je l'avoue, en prenant des hormones, j'ai fait tout ce qu'il fallait parce que j'ai vu ma mère avoir une ménopause très jeune et je ne trouvais pas que le résultat était très bon parce qu'elle a commencé à avoir de l'ostéoporose très jeune. Alors bon, pour toutes ces considérations-là, je me suis dit que si je pouvais retarder le moment de cette ménopause, j'allais le faire. Et j'avais d'épouvantables bouffées de chaleur, c'est pour ça que je m'en suis servie dans cette histoire-là. Mais ma mère, justement, qui avait des bouffées de chaleur absolument terribles, elle trouvait ça drôle, elle laissait ses caracos, elle appelait ça des caracos, ben, ses petits gilets, je ne sais pas quoi exactement, ses caracos, je ne me souviens pas exactement à quoi ils ressemblaient, mais elle les semait partout dans la maison, alors elle était toujours à court de caracos, et ça la faisait beaucoup rire. Ça, ma mère, je dois dire que c'est peut-être grâce à elle, d'ailleurs, parce que les menstruations, ça ne me faisait pas peur, les accouchements, ça ne me faisait pas peur, elle en avait eu un terrible, comme j'ai raconté dans 13 à propos de l'accouchement de son fils. Elle ne s'en est jamais cachée. Et d'ailleurs, pour une femme de cette génération-là, elle était quand même de 1905, je trouvais qu'elle était très audacieuse, elle aussi. Elle en parlait ouvertement. Elle aimait faire l'amour, elle le disait. C'est quand même assez rare. Bon, et la ménopause, ça la faisait rire. Et je me disais, si j'accouche un jour, j'écouterai ma mère qui raconte ça... sans histoire, et pourtant elle a failli mourir même quand je suis née, alors que j'en écoutais d'autres, je me disais, oh Seigneur, si j'étais leur fille, je crois que je ne voudrais même pas songer à avoir un enfant. Alors c'est peut-être elle qui m'a donné cette franchise. Et pourquoi ne pas être franc à propos de ce qui nous définit comme femme, franchement.
Nous allons marquer un nouvel intermède, toujours choisi par notre invitée, Nicole Balvéaillot, actuellement en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Et je vous cite les quatre premiers alexandrins de la chanson que nous allons entendre sur Radion. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Allez, sans plus tarder, nous vous offrons la suite de ce très beau texte poétique et c'est Yves Duteil pour La langue de chez nous.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde. Une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges. On y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Et vous mettez bien sûr souvent en avant dans vos nouvelles des mères,
oui.
Même dans les romans, hein, notamment dans Parce que c'était toi, parce que c'était moi, et dans Dérive, bien évidemment, vous parlez oui. de votre mère.
Sauf que le rôle a changé, dans Dérive, je suis la fille.
Oui, et justement sur le rôle des mères, Nicole, qu'est-ce qu'être une bonne mère? Parce que c'est une question en filigrane à tous ces textes.
Oui, effectivement, il n'y a pas de bonne mère. Il n'y a pas, en tout cas, de mère parfaite.
Alors, n'y a-t-il que des mauvaises mères?
C'est fort possible. C'est fort possible. Et je suis peut-être aussi une mauvaise mère, comme j'ai raconté dans Ma fille, ma faille. Je ne riais pas, j'étais trop sérieuse, je ne prenais pas le temps de jouer avec. Je leur faisais des boîtes à lunch de santé. Imaginez-vous, des repas santé. Elles avaient l'air de folles à côté de leurs des copines qui avaient des sandwichs au beurre d'arachide. Vous imaginez un peu pour des Français, des sandwichs le midi avec des tomates et du beurre d'arachide. Bon, des trucs comme ça. Alors évidemment, mais c'est une question de perception. Je ne parle pas des cas extrêmes où la mère est une infanticide ou je ne sais pas quoi. Là. Non. Mais la Vierge Marie comme type de mère, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mère parfaite. Et on a dit bonne mère tout à l'heure, c'est vrai, vous n'avez pas employé le mot parfaite, mais moi j'ai toute la gamme, il n'y a pas de mère parfaite, et à quelques rares exceptions près, il n'y a pas de mère totalement démoniaque. Hein. Mais la perception d'un enfant par rapport à sa mère, elle est forcément limitée, hein. Si on l'empêche de sortir le soir, si on l'empêche de ci, de ça, on est une très très mauvaise mère. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère, on est une mère qui essaye d'éduquer son enfant. Du mieux, comme je disais à mes filles, moi, mes petites chéries, j'essaye de vous amener à l'âge adulte sans trop de dégâts, voilà.
Vous écrivez dans une de vos nouvelles, c'est la nouvelle qui a pour titre « Du Chili au Canada ».
Oui.
Vous écrivez, je vous cite Nicole Balbeayo, « Les mauvaises mères sont souvent des femmes remarquables, fascinantes. »
Oui.
Et c'est peut-être ce que vous pensez de votre propre maman,
oui.
Pardonnez-moi.
Vous n'avez
pas l'affection illimitée
non.
d'une fille pour sa mère.
Non.
Et on va parler maintenant du roman Dérive, en ce 2 novembre, qui est le jour des défunts. On va rentrer dans une conversation plus intime, plus grave. Nicole, dans Dérive, c'est un roman donc, qui date de 93. C'est un roman dans lequel vous racontez la dérive à la fois de votre mère et la vôtre pendant la période qui se passe sur presque 10 ans. Votre mère qui fait une première petite attaque, paralysie faciale, et puis c'est la dérive, c'est la déchéance. Vous voyez tout de même la déchéance, on peut utiliser ce mot.
Oui.
Et vous racontez justement ce retour, quand même, vous vivez au Québec, c'est-à-dire à 5000 km de la France. Vous revenez voir votre maman, et là, il y a toute une réflexion, tout un chagrin, toute une prise de conscience. Eh bien, ma mère, finalement, c'est pas n'importe qui dans ma vie.
Ah non, non. Et je pense toujours à cette histoire de ce petit garçon qui avait été brûlé au deuxième degré parce que, quelqu'un avait allumé le feu pour qu'il brûle. Et de l'hôpital, il réclamait sa maman, Seulement, petit problème, la personne qui l'avait brûlé, c'était sa maman. Alors, ça, c'est vraiment le cas extrême. C'est certainement pas une bonne mère, hein. Mais j'ai toujours pensé à ça parce que je crois que le lien est très fort entre peut-être un père et un fils, mais aussi certainement encore plus viscéral entre une mère et sa fille. C'est des poupées gigognes, hein. On est issus l'une de l'autre, il y a un lien très très fort. Et moi je me dis, mais ma mère elle m'a laissé libre par exemple. Et ça je lui en suis très reconnaissante. D'ailleurs je l'ai réhabilitée dans une de mes nouvelles de Fenêtre sur vie. Alors, je ne peux pas, ma mère ne pouvait pas donner ce qu'elle n'était pas capable de donner. Elle n'avait pas reçu elle-même d'affection. Elle avait été élevée à la dure, à la campagne, dans la Sarthe de 1905 à 1914, quelque chose comme ça. Et je crois que la démonstration d'affection la mettait très mal à l'aise. Et ça ne l'a certainement pas aidée dans sa vie de tous les jours, sa vie de femme, sa vie de maman. Mais ceci dit, elle ne m'a pas empêchée de partir, jamais, au contraire. Quand j'étais adolescente, elle m'a toujours fait confiance, toujours. Alors que mon père ne me faisait pas confiance, il avait peur de tout pour moi. Bon, j'allais être une fille de mauvaise mœurs, etc. Bon, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais je trouve ça très surprenant. Et avec, j'aurais voulu une mère plus aimante, plus affectueuse. C'est ça qui faisait d'elle une mauvaise mère. C'était une femme qui aimait beaucoup le conflit. Ça, tout le monde me le dit dans la famille. Donc, moi, ce que j'ai ressenti de ce côté-là, je ne suis pas la seule et je n'ai pas à me sentir coupable de ne pas avoir aimé ça. Je ne suis pas la seule dans la famille. Mon mari, vous le direz aussi, on en a subi quelques éclats. Hein, bon. Mais ceci dit, elle a tout fait pour que je suive des études, elle a tout fait pour que j'aille étudier à Paris, elle m'a fait confiance tout le temps et elle m'a permis, et le fait qu'elle n'ait pas été si affectueuse m'a donné les ailes pour pouvoir partir, sinon je ne serais pas partie.
Par conséquent, Nicole, votre mère vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui.
J'ai beaucoup de gratitude. D'ailleurs, dans celui que j'écris à l'heure actuelle, je manifeste ma gratitude. Parce que c'est une chose que les gens ne font pas, hein, dans la vie de tous les jours. On est toujours en train de se plaindre de ces bobos. Mais quand il y a quelque chose de beau qui vous arrive, mais remerciez le ciel, remerciez qui vous voulez, mais manifestez votre gratitude pour les bonnes choses qui vous arrivent.
Et vous en prenez bien conscience dans Dérive, vous écrivez « Je croyais ne jamais avoir aimé ma mère » et là vous vous rendez compte que vous avez de l'attachement profond pour elle. Est-ce que vous voulez, Nicole, lire pour les auditrices et auditeurs de Radion l'extrême fin
de Dérive ? Bon, et si j'ai, comme on dit au Québec, le moton qui me noue la gorge, ça s'appelle un moton, hein, on sera québécois 30 secondes. Tant pis pour vous, hein, vous prenez des risques.
Donc, s'il vous plaît, Nicole.
Alors, allons-y. Je suis entrée. À son visage blême, son épincé, sa respiration saccadée, j'ai su que la mort guettait. Je me suis agenouillée à son chevet, j'ai murmuré. « Ma petite maman, ça va pas ? C'est moi, Nicole, ta fille. Tu sais, ta fille du Canada, je suis venue pour t'embrasser. » Elle a tourné vers moi, ses yeux pervenches. Elle a tendu vers mon visage la seule main que lui avait laissée l'attaque cérébrale qui l'avait terrassée. Sa main m'a caressé la joue avant de s'arrêter sur mes lunettes. Alors j'ai su qu'elle m'avait reconnue et j'ai pleuré, le nez dans son oreiller pour qu'elle ne me voie pas, pour qu'elle ne m'entende pas. Et puis, nous avons attendu que la mort fasse son œuvre, elle qui m'avait attendue. Nous avons attendu que je sois prête à la laisser aller, à lui dire qu'elle pouvait partir en paix, qu'elle avait été une bonne mère, que tous ceux qui l'aimaient là-bas au Canada, mon mari, mes enfants, mes amis, l'accompagnaient de leurs pensées. Nous avons attendu qu'elle soit prête, qu'elle cesse de se débattre, de repousser les perfusions, les soins, ma main tendue vers elle. J'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai médité. J'ai pensé l'envoyer à l'hôpital, j'ai réclamé des calmants pour qu'elle ne se gratte plus au sang, ne s'agite plus dans sa souffrance. Lentement, son sang s'est empoisonné et les calmants ont fait effet. Elle a fini par s'endormir, tournée sur le côté, dans la paix. Maman, par quel étrange destin avons-nous été seules, toutes les deux en cet instant, toutes les deux pour ma naissance, toutes les deux pour ta mort, dans la paix. Josiane, Monique et le directeur sont venus me rejoindre pour te rendre un dernier hommage. Dehors, le temps était superbe. Le soleil brillait dans le ciel bleu. Dans le port de Plaisance, la glace serrait les péniches de son étau. Parmi elles, fière, omniprésente, indestructible, la dame de fer. Maman, je te la dédie.
C'était donc les dernières lignes donc, du roman de Nicole Balvé-Ayo, Dérive. Bien sûr, beaucoup d'émotions, beaucoup de force. Est-ce que c'est écrit sur la disparition de votre maman, Nicole, est-ce que cela vous a complètement réconcilié à la fois avec votre mère, avec la vie et peut-être aussi avec la peur inexorable de votre propre mort ?
Je dois vous dire que si je n'avais pas accompagné ma mort, mon Dieu, ma mère, dans la mort, comme je l'ai fait,
et mais le lapsus long... est révélateur, ce
oui,
que vous venez de dire.
Oui, mais ça vient. C'est que par la suite, j'ai accompagné des mourants pendant 6 ans. Et si j'ai arrêté, ce n'est pas parce que je ne voulais plus le faire, c'est parce que la vie m'a appelé ailleurs et que je n'avais pas l'énergie de faire 2 choses à la fois. J'ai dû accompagner les vivants avec toutes leurs petites émotions d'artiste. Alors voilà. Et en plus, j'ai accompagné mon amie de loin, à 5000 km, parce qu'elle n'a jamais voulu que je vienne, mais je lui envoyais des prières, des petites cartes, parce que j'étais toujours bénévole aux soins palliatifs quand elle est décédée. Et alors donc, je lui faisais profiter de tout, et de tout ce qui me venait à l'esprit dans cet accompagnement que je faisais une fois par semaine. Bon, et en plus, j'ai pris sur moi de l'appeler, puis l'infirmière me disait, oh, ben, écoutez, non, j'ai dit, regardez, mettez-lui le téléphone à l'oreille. Et je lui parlais à l'oreille. Et quand ma belle-mère est décédée en 2007, nous avons fait la même chose et nous nous en trouvons très bien. Parce que on m'a dit la même chose, mais vous savez, elle n'est pas en état. J'ai dit, mettez le téléphone à son oreille. Et effectivement, elle a reconnu une personne qui lui était très chère et elle a essayé de lui parler. Et ça fait que tout le monde lui a dit au revoir. Et c'est important de faire ça. Faut pas avoir peur de la mort. C'est sûr que c'est pas un passage. C'est un passage. La naissance est un passage et la mort est un passage. Ce qui nous fait peur, c'est peut-être c'est le vide que l'on suppose qu'il y a après. Je sais pas qu'est-ce qui nous fait peur. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ne plus vivre. Ça m'embête. Ça va me prendre dans le cours de mes projets. J'en aurai toujours. Ça, c'est bien embêtant.
Vous citez John Donne, le poète.
Oui.
Ne demande jamais pour qui sonne le glas,
il sonne toujours pour toi.
Oui.
Ben de toute façon, à chaque fois que vous perdez quelqu'un qui vous est cher, Dieu sait que j'en ai perdu pas mal, c'est tout un pan de votre vie qui s'écoule. Les parents nous laissent orphelins, quel que soit notre âge. Alors, c'est toute notre enfance qui disparaît, c'est tout ce que l'on n'a pas pris le temps d'apprendre et qui soudain se met à nous interpeller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, papa et maman sont plus là pour vous le dire. Et quand c'est arrivé à mon mari, après la mort de ses frères d'ailleurs, puis qu'il regardait des photos, parce qu'on triait les photos pour donner aux filles de ses frères, et il me dit, je sais pas qui c'est, il y a 60 ans. Je dis, va voir ta mère. Et donc, elle était capable de lui situer qui était cette personne, quand est-ce que ça s'est passé, etc. C'est son histoire. Nous avons besoin de nous ancrer dans notre histoire. J'en suis persuadée.
Si vous le voulez bien, Nicole, nous allons nous quitter quelques minutes, le temps d'écouter une chanson que vous avez choisie pour Wagon Livre ce soir. Nous allons écouter Sylvain Cosette qui nous interprète « Je reviens chez nous ».
Il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille. Gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges malgré les lourdes giboulées. Sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers. Le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Porte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop puté, on hibernera.
Contactez Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Ce soir de novembre, jour des morts, Nicole, vous écrivez dans Parce que c'était toi, parce que c'était moi, donc ce récit dans lequel vous expliquez votre accompagnement à distance de cet ami de 40 ans qui va être foudroyé par la bête, par le cancer. Vous écrivez: notre société ne prend guère le temps d'enterrer ou de pleurer ses morts.
Oui, je pense que c'est peut-être plus propre à l'Amérique du Nord, je ne sais pas. Je ne vois pas ici de combien de temps on dispose pour la mort, je veux dire quand on travaille, pour la mort d'un parent ou pour la mort. Puis on a l'impression que, bon, tout est réglé dans les 8 jours, hein, c'est terminé. Bon. Je ne parle pas de la succession, ça c'est autre chose. Mais bon, les larmes, ça attend, mais c'est terminé. Non, non, il faut se donner le temps de pleurer. On a le droit de pleurer, il faut pleurer. Il faut on peut fêter aussi, on peut commémorer. Je pense, parce que c'est l'image qui m'arrive, on était au Vietnam, Et on avait vu un restaurant où nous voulions aller manger. Et il y avait beaucoup de monde dans ce restaurant. Puis ça avait l'air joyeux. Enfin, il y avait beaucoup de monde. On s'est dit, ça va être bon, là. Alors, on entre. Ah, non, c'est pas possible ce soir. Non, pourquoi c'est pas possible ce soir? Mais c'est parce que la maman, elle est morte il y a un an. Alors, on fête. Toute la famille était là pour... Et ils n'avaient pas l'air malheureux, tous ces gens-là. Ils avaient l'air... Bon, c'était une fête. Et je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On manifeste leur présence, ils sont toujours là. C'est vrai qu'ils sont toujours là, le lien reste. Alors, oui, il faut... Bon, peut-être que aller porter des chrysanthèmes à nos morts ce jour-là, le 1er novembre, c'est très bien. Mais peut-être aussi qu'il faudrait mettre... une bougie, le jour de la naissance, ou le jour, une fête particulière. Moi, c'est ce que je fais. Je suis loin, je ne mets pas des fleurs sur la tombe de mes parents qui sont à Auxerre, mais j'allume une bougie le jour de leur anniversaire ou le jour de leur mort. Et j'y pense. Par exemple, mon père est né le 2 février, c'est la Chandeleur. J'étais incapable de faire des crêpes pendant très longtemps. Et maintenant, nous faisons des crêpes, pas nécessairement le 2, parce que ça se fête pas, les fêtes, la Chandeleur, alors au Canada, je parle. Donc, on fait ça pour la Saint-Valentin, le 14, par exemple. Et là, on réunit tous les amis, et je dis, voilà, ces crêpes sont aussi en honneur de mon père, qui est né le 2 février 1902, et c'est en souvenir de lui. Et je dis, bon, oui, j'ai pas pu faire de crêpes pendant longtemps, mais... sa pensée reste là. Et le 9 septembre, c'est la date de sa mort, je vais mettre une bougie, je vais penser à lui. Donc, il ne meurt pas. Aussi longtemps que je vais être capable de parler de mes parents, ces gens-là ne meurent pas.
Dans le roman, oui. Dans le récit, parce que c'était toi, parce que c'était moi, Nicole Balveaio, bien sûr, vous essayez de définir ce qu'est la vie, vous dites que la vie est une lutte, et vous nous rappelez, et là aussi, vous êtes bien... dans l'ombre de Montaigne et des préoccupations humanistes, vous écrivez « La vie n'est agréable que lorsque l'on est sur le point de la perdre ». Ça, je crois qu'on peut se le rappeler tous les jours.
Ah, ça, c'est sûr.
Quand
c'est
on met le pied au bas du lit, se dire aussi qu'on a le bonheur
oui,
d'être
en la gratitude, c'est ce que je disais oui. Tout à l'heure. Bien sûr, ben, moi, c'est parce que j'ai eu un accident qui m'a fait réfléchir un petit peu et donc qui a été source de transformation. C'était rien de particulier. J'ai eu beaucoup de chance. Je dis, j'aurais pu avoir bien pire que ça, mais j'ai quand même été immobilisée pendant longtemps par une mauvaise fracture de la cheville. Et c'est mon inconscient qui a réagi. Je disais qu'on a deux visages. Moi, j'avais deux visages parce que je suis peut-être grave dans mes écrits, mais assez optimiste dans la vie. Et là, c'était très manifeste. Je prenais ce qui m'arrivait, cet accident, dans la foulée, c'est le moment de dire, quand on est chic cassé. Mais mon inconscient prenait ça très, très mal. Et ce qu'il me disait, mon inconscient, c'est que tu as perdu ton innocence, en quelque sorte. C'est que je me croyais invulnérable, je me croyais immortel. On a tous l'impression qu'on est immortel. Mais en fait, cette chute, c'est une chute, elle te révèle que tu es mortel et qu'avant d'être mortel, tu es même vulnérable et que ça peut s'arrêter en quelques secondes. D'où le fait que chaque journée qui passe et où ça se passe bien, mais il faut la valoriser, il faut montrer sa gratitude à qui vous voulez, le ciel, Dieu, n'importe qui, n'importe quoi, la lumière, sans la lumière on mourrait tous, hein. Bon. Le tournesol qui se tourne vers le soleil, il a besoin du soleil, mais nous aussi. Donc c'est ça, c'est cette fragilité de notre existence, ça peut s'arrêter n'importe quand. Et c'est ça que les gens pensent, ne pensent pas. On peut mourir du jour au lendemain, il faut être prêt à mourir du jour au lendemain. Il faut avoir cette attitude qui fait que il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier.
Vous parlez du tournesol qui se tourne vers la lumière, d'ailleurs... dans « Parce que c'était toi, parce que c'était moi », votre amie, elle va rejoindre la lumière et la luminosité, les couleurs sont présents, notamment dans le recueil « Fenêtres sur vie » où les nouvelles sont classées selon différents chapitres. « Point du jour »,« Clair-obscur »,« Soleil couchant » et « Crépuscule ». Nicole Balveaio, vous savez que le temps tourne très vite, il va falloir qu'on se quitte. Noël, c'est dans un peu plus d'un mois et demi maintenant. Il est aussi terrible, quand vous parlez de votre ami, du dernier Noël, quand on est dans la souffrance, pensons à une famille qui est confrontée à la maladie d'un être cher dont on sait la mort inévitable. J'aimerais que vous nous lisiez un petit peu Quel sens à Noël quand on meurt, quand on se meurt, s'il vous plaît, Nicole Baldiaglio?
Quel sens à Noël quand on se meurt? À l'hôpital, tout pimpant, à l'approche de Noël, les malades n'ont Dieu et l'énergie que pour cette date mythique qu'ils s'efforcent d'atteindre à tout prix, leur dernier Noël parmi nous. Je veille sur une femme, jeune encore, qui dort sur le côté en position de fœtus. Elle ne sera plus là pour le quatrième Noël de son petit garçon. Elle attend la mort qui ne saurait tarder. Une autre, foulard sur la tête, plus jeune encore, se repose. Elle attend le prêtre qui viendra bénir son mariage. Il devancera la mort de 24 heures. Une autre encore, plus âgée, réclame des chaussons rangés sur l'étagère invisible d'un mur qui n'existe pas. Près d'elle, sa fille attend. Un livre dont elle ne tourne pas les pages, posé sur ses genoux. Noël chante dans les églises, les centres commerciaux, les chaumières, et moi je pleure. Je porte le deuil de tous ces inconnus que j'accompagne, quelques jours, quelques heures, parfois quelques instants. Je porte aussi ton deuil, avant que tu ne meures, et ta mort annoncée ressuscite tous mes deuils que je croyais finis. Mon père, ma mère, ma petite nièce, mon frère. Ma tristesse témoigne de leur vie qui continue en moi. Quel sens à Noël quand tu meurs? Je voudrais près de moi quelqu'un qui fasse la même chose que toi. Ça n'existe pas, un centre de soins palliatifs dans ton coin de France. Mais tu ne veux toujours pas que je prenne l'avion. T'as raison, ma place n'est pas près de toi. Tes enfants, tes amis de toujours, tous sont avec toi. Et tous croient que tu vas t'en sortir, ou font semblant de croire et t'exhortent à vivre. Tu commences une chimiothérapie, tu t'en excuses presque. C'est ça ou mourir. J'ai rien à dire. T'accompagner, ce n'est pas te dire quoi faire. Je pleure. J'ai déjà beaucoup pleuré pour chacun de mes deuils, mais celui-ci est différent. Dès notre première rencontre, j'ai su que tu faisais de la survie, que toutes ces années t'étaient offertes tel un cadeau. Même si tu disais parfois le contraire, tu as si bien su profiter de ton sursis que j'avais fini par croire que ton cancer et toi, vous viviez en bonne intelligence. Vous alliez vieillir ensemble et tu ferais une belle vieille dame. Je n'en doutais pas. Salaud de cancer. Il me semble qu'hier, je ne savais rien de lui. Maintenant, j'en sais trop. Cet animal vous boulotte. Vous grignote de l'intérieur, l'air de rien, mine de rien, sans un soupçon de tendresse. C'est un loup qui s'acharne sur sa victime, sans qu'un chasseur arrive à temps pour l'arracher à ses griffes. Tu passeras Noël à l'hôpital.
Merci Nicole Balveaillot pour cet extrait du récit « Parce que c'était toi, parce que c'était moi ». Nicole, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur Radion dans l'émission littéraire de la radio locale de Lyon. Merci à vous.
Merci moi et vous remercie aussi.
Je vous en prie, Nicole. Ça fait un an que l'émission Wagon Livre existe sur l'antenne de Radion et finalement, cet anniversaire, on le commémore aussi avec vous.
Ah, alors, quelle gratitude, allons nous manifester tous les deux.
Je rappelle les titres de vos ouvrages que l'on peut se procurer à la maison Jules Roy jusqu'à la fin du mois de novembre. Dérive, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Le roman L'enfant du Mékong, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais on a déjà manqué, je crois, de temps pour parler de tout. Et les merveilleuses nouvelles et récits du recueil Fenêtre sur vie, qui évoque la famille, l'amour, la sexualité, l'amitié, l'aventure, l'exil, le souvenir, la perte. Et beaucoup, on aurait pu parler de vos voyages, vous qui avez
fait le tout. Ça sera une autre fois, je reviendrai.
Pour une autre fois. Merci Nicole Balveaillot et bonne soirée à vous.
Merci.
Manifestations culturelles dans Lyon et en Bourgogne, et bien là c'est dans la Nièvre, c'est à Clamecy le 5 novembre prochain à 13h30 à la salle Colabrenion aura lieu la dictée de l'oncle Benjamin.
Et effectivement, la participation est libre et gratuite pour les jeunes depuis la classe de CM1, pour les adultes à partir de la classe de seconde. Les inscriptions sont à faire auprès de la médiathèque, sur place ou par téléphone au 03 86 27 30 69. L'accueil est prévu à 13h30, donc à la salle Colabrunion de Clamecy, et la dictée commencera précisément à 14h. Les résultats seront proclamés, eux, à 18h. Le 5 novembre prochain, à 9h30 cette fois-ci, c'est à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Auxerre, l'entrée est libre des histoires pour les petites oreilles, un moment tout en album et en comptine pour les enfants, les tout petits, de 0 à 3 ans, mais les parents sont bien évidemment aussi conviés à cet rendez-vous ludique et festif. C'est donc à la bibliothèque Sainte-Geneviève à partir de 9h30 samedi prochain. N'oubliez pas, le 6 novembre, l'ouverture donc d'une exposition au cellier de l'abbaye Saint-Germain, une exposition réalisée par la bibliothèque d'Auxerre, ainsi qu'avec la participation du collectionneur privé Bernard Clavreuil, une exposition intitulée « Colette, je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi, vous avez le temps ceci dit », mais sachez que l'exposition donc est visible du 6 novembre au 8 janvier 2012 au cellier de l'abbaye Saint-Germain. Une pensée ce soir pour Patrick Vieuville, créateur des éditions Pavic. Patrick Vieuville nous a quittés la semaine dernière, je le connaissais bien, et il nous avait permis d'enregistrer pour Radion, en public, un entretien avec le comédien Jean-Pierre Mariel au début de l'année 2011. Nous avons bien sûr une pensée pour lui, mais aussi pour son épouse, Émilie Villemont, auteur de Polar régional. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 9 novembre, à 21h, toujours sur Radion. Didier Deninx, rencontré au cours du 8e Salon du Livre de Migennes le 9 octobre dernier, nous a accordé un entretien et nous reviendrons avec lui sur trois de ses romans qui ont tous un lien avec la Grande Guerre, Le Der des Der, Galadio et Cannibal. C'est mercredi prochain à 21h sur Radion à bord de Wagon Livre. Terminus, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine sur le 90.5.